Bastia sur le canal 72-72.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Radio Ponton, l'émission qui parle de tout ce qui flotte sur une, deux ou trois coques, à la voile ou au moteur, à la rame ou avec des foilers. Toute l'actualité de la plaisance et du nautisme en moins d'une heure, c'est maintenant et c'est ici. Ce mois-ci, une émission spéciale Motorboat de l'année. Qui a gagné quel prix et pour quelle raison? Vous le saurez dans un instant en compagnie de nos invités spéciaux puisque nous appellerons quelques chantiers gagnants. Pour aborder ces sujets, notre équipe d'experts issus de la rédaction de Motorboat, Stéphanie Deloustal.
Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous.
Bonjour Stéphanie et Édouard Desgrés.
Bonjour, bonjour.
À la régie, c'est Eddy, moi c'est Pierre-Yves. Ne lâchez pas la barre et montez le son, vous êtes sur Radio Ponton. Alors, on va parler en effet de ces motorboats de l'année. On rappelle le principe, parce que cette année, vous aviez des lecteurs. Ça se passe à hier. C'était au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne.
Fin septembre.
Superbe météo. Tous les gestes barrières respectés, bien sûr. Des très, très belles images qu'on a pu découvrir sur des vidéos qui sont d'ailleurs sur le site de Voiles et Moteurs. On a 5 prix à remettre aujourd'hui, Stéphanie et Edouard. Le prix de l'élégance, le prix d'innovation, le prix spécial du jury et puis 2 prix qui vont récompenser des bateaux de moins de 7 mètres et des bateaux de plus de 7 mètres. C'est bien cela ?
Exactement, parce que cette année, nous avions 15 bateaux qui étaient présents et il se trouve que par un heureux hasard sur ces 15 bateaux, il y en avait 8 qui mesuraient moins de 7 mètres et 7 qui mesuraient plus de 7 mètres. Donc on a décidé en fait cette année de faire un prix du bateau de l'année de moins de 7 mètres et le bateau de l'année de plus de 7 mètres.
Ce qui fait sens, puisque les bateaux de moins de 7 mètres, c'est une proportion quand même non négligeable du marché.
Ça représente le gros des immatriculations, exactement. 7 mètres étant une frontière, on le rappelle, dans le nautisme, puisque les bateaux de moins de 7 mètres sont des bateaux qui sont exonérés de tout droit de francisation.
Tout à fait.
Alors que les bateaux de plus de 7 mètres doivent payer une taxe sur la coque et sur le moteur.
Taxe que vous pouvez calculer grâce au simulateur, bien sûr, qui est en ligne sur
Voiles et Moteurs.
Voiles et Moteurs, absolument. Est-ce qu'il y a eu des débats un petit peu houleux? C'était compliqué de déterminer les gagnants cette année?
Alors en fait, notre principe est assez simple. Nous, depuis le début des élections, c'est-à-dire il y a maintenant 8 ans, on a décidé de donner la parole aux lecteurs. Donc le jury est constitué essentiellement de lecteurs, mais en fait, on leur donne une fiche qu'ils doivent remplir sur laquelle il y a 10 critères à noter, qui vont de l'accès à bord en passant par le plaisir du pilotage, le comportement en mer, la capacité de rangement. Et ils notent en fait tous ces critères-là.
Donc ils inspectent tous les bateaux.
Exactement. Ils passent sur tous les bateaux. Nos élections se déroulent sur 2 jours. Donc on fait passer le jury sur 8 bateaux le premier jour, 7 bateaux le deuxième jour. Ils ont des rotations toutes les 45 minutes. Et effectivement, ils doivent remplir en fait, à chaque fois une fiche par bateau, fiche qu'ils nous rendent à la fin. Et en fait, nous, c'est tout simplement, c'est très mathématique, c'est un calcul. Le bateau qui remporte le prix, c'est celui qui a le plus de points.
D'accord, donc la parole est vraiment donnée aux lecteurs.
Voilà, c'est vraiment les lecteurs qui décident des prix. Nous, on est là vraiment pour pour encadrer exactement l'événement.
D'accord. Combien de lecteurs au total, du coup, qui forment ce...
Alors, cette année, ça a été un peu plus compliqué, puisque comme c'était... au départ, c'était prévu au mois de juin, nos élections, et puis ça correspondait à peu près au moment du déconfinement. Mm-hmm. Donc, finalement, on a été obligé de reporter ça en septembre. On a reporté ça à des dates qui correspondaient juste au lendemain des salons de Cannes. Et on a eu un peu peur quand le salon de Cannes a été annulé. Et puis finalement, cette annulation nous a plutôt servi puisqu'il y avait beaucoup de bateaux qui étaient dans le sud. Donc on a récupéré quand même ces 15 bateaux. En revanche, on avait prévu une quarantaine de lecteurs. Et en raison des gestes barrières et de la consigne sanitaire, on s'est dit que deux lecteurs par bateau, c'était largement suffisant. Donc on a été obligé de réduire. Donc cette année, on avait 16 lecteurs, dont une femme. Ce qui était très bien parce qu'on est toujours un peu pauvre en jury féminin, c'est d'ailleurs des remarques qu'on a quelquefois, mais les femmes ne s'inscrivent pas forcément facilement. Et donc voilà, donc c'était dans des conditions absolument idylliques, puisqu'on a eu 2 jours de grand beau, grand soleil, c'était l'été, et ça s'est passé dans les meilleures conditions possibles.
D'accord, oui, on voit les photos et les vidéos, peu de clapots hein, par contre.
Il y avait un petit clapot quand même, mais bon, c'était tout à fait... Et ce qui était très intéressant cette année, c'était la variété, enfin comme chaque année d'ailleurs, la variété de l'offre, c'est-à-dire qu'en fait on avait 15 bateaux qui allaient de 6 mètres à presque 10 mètres, donc du petit open entrée de gamme à la vedette à fly de croisière en bimoteur hors bord, en passant par du gros semi-rigide, du plus petit semi-rigide, du sun deck, du day cruiser. Enfin, on avait une offre vraiment extrêmement variée.
Oui, et des bateaux en plus assez originaux. On va en parler dans un instant. Je rappelle que si vous êtes lecteur intéressé pour devenir membre de ce jury, vous pouvez candidater dès le mois de mars.
Bien sûr, bien sûr. À tout moment, nous gardons les candidatures sous le coude.
Absolument, absolument. Édouard, tu voulais dire quelque chose ?
Écoute, je confirme tout à fait ce qui a été dit. Bon, on a quand même eu un petit peu de clapot pour pouvoir tester, pour que les lecteurs puissent tester les carènes d'une manière, enfin, en bonne et due forme, et se faire quand même une opinion au-delà de l'aspect purement esthétique des bateaux, on va dire, et du confort.
Bon, eh ben ça c'est une excellente nouvelle. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le détail du classement avec le prix de l'élégance. N'hésitez pas à nous dire également qui candidatait quelque part à ce prix, qui n'a peut-être pas gagné, mais qui pouvait mériter, on va dire, un coup d'œil encore aujourd'hui.
Oui, alors le prix d'élégance, ça aurait pu être n'importe lequel des bateaux présents. Il se trouve que là, il y a eu quand même un coup de cœur pour un bateau danois qui s'appelle le Rand 24 Play.
Donc, le Rand 24 Play, prix de l'élégance, motorboat de cette année.
Exactement. Et donc, c'est cette ligne épurée, classique, dépouillée qui a particulièrement séduit les lecteurs, dont certains l'ont baptisé d'ailleurs de Riva à la mode danoise. Voilà.
Ça fait à la fois arriver à mode danoise et presque tender de super yacht. C'est très très classe. Hein,
on est à la frontière entre les deux.
Donc ça, on parle bien d'élégance ici.
Voilà, donc silhouette moderne, impeccable, sécurité à bord. Et en plus, un petit bonus, c'est qu'il est réalisé avec des matériaux recyclés. Et donc, il aurait pu recevoir le prix de l'innovation, mais ce n'est pas le cas pour cette fois.
On ne peut pas avoir tous les prix non plus sur un seul... Et même bateau, 24, parce que 24 pieds, peut-être on pourrait poser quelques questions au directeur de Port d'Hiver, Alexandre Boussin.
Exactement, on va lui passer un coup de fil, lui poser quelques questions et voir un peu sa réaction.
Alexandre Boussin ?
Oui, bonjour Alexandre, c'est Edouard Desgrès à Motorboat. On voulait vous féliciter pour le prix de l'élégance, pour le Rand 24 Play.
Eh bien, moi, de vous remercier.
Bien sûr. Et donc, on voulait vous poser quelques questions. Vous importez la marque depuis pas très longtemps. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ces bateaux ? Qu'est-ce qui vous a plu, finalement, dans ces bateaux ?
Concrètement, ce qui nous a plu, plusieurs choses. En premier lieu, je vais me mettre dans un endroit où je suis calme.
Oui, on a un peu de bruit par là.
C'est ça, voilà, on va être beaucoup plus calme là maintenant. Ce qui nous a plu en premier lieu, la première chose qui attire, c'est le côté design, parce qu'on a affaire à quelque chose qui est très clairement identifié, minimaliste, design, je dirais, danois. C'est quelque chose auquel on a pu être sensible au premier regard. D'autre part, il y a le fait que la gamme qui était proposée par le chantier Rand débutait d'un 18 pieds jusqu'à pour l'instant un 28 pieds avec une ambition future qui est plus importante, mais ça correspondait à une ouverture de gamme entre guillemets vers le bas pour le chantier Port d'Hiver, puisque on est identifié moyenne pied de plaisance et en dessous de 38 pieds on avait peu d'offres. Et donc, c'était l'occasion de proposer à nos clients des bateaux plus petits, mais pour autant avec une qualité de fabrication qui restait, je dirais, à raccord avec ce qu'on a l'habitude de distribuer, puisque donc les bateaux Rand, si les dessins sont effectués au Danemark, à Copenhague, la production est confiée au chantier à Standoa. Et donc, ce qu'on a pu vérifier directement, c'est que la qualité de fabrication était vraiment au-dessus des bateaux de moins de 10 mètres qu'on avait pu voir jusque-là.
D'accord. Et depuis que vous avez pris la carte, quelle est la perception en fait des plaisanciers qui voient ces bateaux sur les salons, enfin, comment ils sont perçus finalement
Ce qui est remarquable et très intéressant, et ce qui nous intéresse clairement, c'est que les gens s'arrêtent directement. on n'a pas l'habitude de voir des bateaux avec un design de ce type sur des bateaux de moins de 10 mètres. Et donc il y a plusieurs parties pris, le fait qu'ils aient choisi un gel coat gris, même s'il y a également du blanc qui est disponible, et qu'ils aient un design un petit peu audacieux, à savoir une étrave verticale, comme on peut la retrouver sur les bateaux un petit peu plus gros, open, qu'on a pu importer au préalable, genre Fjord. Ouais. Par exemple, les remarques qu'on a, c'est « Ah, c'est un mini Fjord, c'est un mini Van Dutch ». Et le fait que ce soit pas la petite taille soit pas au détriment de la qualité de fabrication, bah ça attire une clientèle qui veut pas spécialement un gros bateau, mais qui pour autant a envie d'un bateau qui permet de se différencier et qui a un certain style.
D'accord. Et puis il y a une autre particularité chez Rand, c'est que les carènes sont aussi faites pour des motorisations électriques. Hein. Est-ce que vous avez des demandes pour ça? Est-ce que c'est un argument de vente, l'électrique?
Alors clairement, il y a un énorme intérêt de la part des plaisanciers pour l'électrique, puisqu'on on a reçu à l'annonce de la prise de la marque beaucoup d'appels, de demandes de renseignements. Donc les gens sont vraiment sensibles à ce type de motorisation. Pour être honnête, pour l'instant, c'est un petit peu le marché est jeune, bien entendu. Et si les gens se renseignent en termes de performance, d'autonomie, de type de motorisation disponible et autres, ce qui leur manque pour les rassurer, c'est, je dirais, d'avoir des retours d'expérience et, comme pour la voiture, hein, et d'avoir, je dirais, des infrastructures qui soient présentes dans
les ports, ouais.
Dans les différents ports, hein, et en principe. Principalement le port qui peuvent leur port d'attache. Donc pour l'instant on a beaucoup de curiosité, on a des projets plus concrets pour des professionnels type sur la Seine, des visites pour le fluvial, ce qui est l'origine de la marque, hein, à la base, hein, parce que si on revient un petit peu sur l'historique de Rand, le créateur donc avait une sensibilité écologique particulière et a décidé de lancer donc son premier modèle le 18, Picnic 18, pour des trajets fluviaux à Copenhague, avec un souci de qualité de fabrication, ce qui nous a intéressé également dans le process de fabrication, l'utilisation de matériaux durables et des procédés de fabrication les plus écologiques possibles. Il y a toujours cette vision dans le scope de Rand.
D'accord.
Et donc, pour revenir au projet concret, on a des discussions avec le port de Bormes-les-Mimosas qui est très précurseur pour tout ce qui est vert et avec qui on est en discussion pour l'installation de bornes de recharge rapide et la mise en place de notre premier bateau électrique dans le port. On a également des restaurants qui sont intéressés pour faire les navettes entre le restaurant de plage et les bateaux le bateau de clients qui pourraient mouiller en face, plutôt que d'aller chercher les clients avec des pneumatiques classiques. Le fait de pouvoir aller les chercher en électrique, ça fait sens pour certains, d'autant plus que les notions d'autonomie sont plus aussi importantes dès lors qu'un service le midi, ça va durer 2-3 heures, ce que peuvent largement effectuer les bateaux en question.
Bon, félicitations pour tous ces développements de la marque et puis félicitations pour ce prix de l'élégance et puis on espère à bientôt sur l'eau, hein, pour des essais.
Ben, ravi de voir que les bateaux vous aient plu et puis j'espère que la suite de la gamme pourra vous plaire aussi dans les cartons à dessin. Ça va jusqu'au 38, ce qui fera la jonction avec les Pardos qui débutent à 38.
Exactement. Eh bien merci beaucoup Alexandre et à bientôt.
Merci à vous, merci pour le prix encore.
Avec plaisir.
Au revoir.
Intéressant, hein, cette évolution de la perception sur les motorisations électriques et puis les formes de design un petit peu innovants, les modes de construction également qui sont repensés.
Mais c'est vrai que c'est tout à fait dans la... Port d'Hiver étant importateur Pardo, c'est vrai que c'est tout à fait dans la continuité, on va dire, ou au contraire en ouverture de... C'est tout à fait le même.
Très bien, 107 880 euros avec 250 chevaux Mercury, un très très joli bateau que je vous invite à découvrir, comme tous les autres d'ailleurs, dans le prochain numéro de Motorbob, qui est déjà en kiosque d'ailleurs, depuis ce matin.
Exactement.
Absolument. C'était le prix de l'élégance, le Rand 24. On va passer maintenant au prix de l'innovation, attribué à un chantier plus connu pour le coup. Quels étaient les concurrents dans ce domaine? Parce que l'innovation,
pareil, c'est... l'innovation, ça s'adresse à tous les bateaux qui se présentent à ces élections, puisque c'est vraiment un prix très général. Et là, cette année, ben, le prix revient à la Beneteau, au Beneteau Antares 11 Fly. Et c'est un prix tout à fait mérité, parce que c'est un bateau qui a un pavois basculant sur tribord, et ça permet d'avoir une terrasse sur mer très originale. Un plan d'aménagement, alors là, qui associe modernité et audace, parce que la timonerie est dans la continuité du cockpit, donc il y a une véritable prolongation, ça fait un immense carré. Donc il a vraiment été perçu par les lecteurs comme une maison flottante. Et c'est vrai que ce soit aussi dans le choix des matériaux, c'est un bateau c'est un prix vraiment tout à fait mérité et qui n'a pas été pour le coup beaucoup débattu. Ce bateau s'est échappé de lui-même, on va dire, du reste de la flotte. Donc
on peut s'appeler Beneteau, avoir un modèle qui s'appelle Antares, qui existe depuis des décennies et continuer à innover.
Ah ben je pense que là effectivement, puis c'est une manière justement, je pense, de relancer encore la gamme Antares sur le marché de la vedette de croisière, quoi.
Donc, sûrement quelques contraintes quand même techniques pour mettre en place ce genre de choses. C'est des questions qu'on pourra peut-être poser
à Yann Maslow,
qui est le patron du groupe Beneteau.
Exactement, on va l'appeler. Alors, hop là.
Allô ?
Oui, bonjour Yann, Stéphanie, Motorboat Magazine.
Ah, bonjour Stéphanie.
Yann, je voulais t'appeler pour t'annoncer que vous avez remporté le prix de l'innovation à nos élections des motorboats de l'année avec le Beneteau Antares 11 Fly. Donc c'était pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
Ah ben c'est une super nouvelle, juste avant Noël, un grand merci, je suis ravie.
Bon bah écoute, nous aussi on est ravis. Écoute, je profite de t'avoir au téléphone pour te poser quelques petites questions justement en rapport avec ce bateau. L'Antares 11 Fly, elle a été particulièrement appréciée pour sa plateforme de cockpit latéral tribord basculante et puis son cockpit qui est dans la continuité de la timonerie. Avec son plancher de plein pied. Quelles ont été les contraintes techniques imposées par ces deux éléments qui sont les points forts incontestablement de cette unité?
Oui, alors des contraintes, il y en a eu plusieurs. D'abord, à l'origine de cette idée, on a voulu développer sur un bateau de cette taille-là, effectivement, un élément qu'on retrouve aujourd'hui qu'on retrouvait sur des bateaux de taille plus importante. C'est une véritable, en fait, terrasse sur la mer qui amène de l'espace quand on est au mouillage. Ce qui est important de dire aussi, c'est que sur l'Antares 11, c'est une fonctionnalité qui est standard.
Tout à fait, oui.
Ce qui est peu commun aujourd'hui sur ce type de fonctionnalité. On la manipule de manière manuelle en standard et on a une option avec une assistance électrique. Alors, elle peut porter jusqu'à 200 kg de charge, c'est pas rien. Et on a prévu aussi des balcons amovibles pour assurer la sécurité des gens à bord. Alors, dans les contraintes principales, c'était de pouvoir avoir une structure et du bordé de la coque et du pavois de la coque qui permettent de supporter ces 200 kg de charge latérale, parce qu'ils sont complètement au-dessus de l'eau, en fait. Et donc, ça crée des efforts sur l'axe sur lequel pivote la plateforme. Et donc, il y a eu toute une recherche à ce niveau-là pour résoudre ces contraintes structurelles. Voilà, le BE a bien travaillé avec les gens de la structure pour trouver les bonnes solutions. On est ravis, en fait, de cet élément sur l'Antares 11.
Effectivement, oui, tout à fait. Et le fait que le plancher soit de complètement de plein pied entre la timonerie et le cockpit, ça a imposé la mise en place d'une espèce de bassine, non, recouverte par un caillebotis à l'entrée de la timonerie, non?
Oui, alors c'est effectivement, on a des... D'abord, c'est un grand confort d'être de plein pied.
Complètement.
Avoir un rail de porte au milieu ou autre. Mais effectivement, il y a dans le cadre des normes CE pour l'homologation des bateaux, dans le cadre de ces normes, il y a une norme ISO qui traite de l'envahissement de l'eau sur les navires. Et donc, pour répondre aux exigences de cette norme, cette norme va calculer la quantité d'eau qui peut monter sur un volume d'un bateau, sur une surface d'un bateau, et va définir à quelle vitesse cette eau doit s'évacuer.
D'accord.
Donc, on a fait tous ces calculs, et effectivement, le seul moyen de répondre à la norme, c'était de créer ce que tu appelles une bassine. Nous, on appelle ça un pédiluve.
Oui, c'est peut-être plus élégant, je ne sais pas.
Voilà, c'est effectivement un caillebotis en teck qui est juste à l'entrée du carré, en fait, juste devant la porte. Et un caillebotis donc qui est entièrement troué, hein, et en dessous duquel on a une grande bassine qui va récupérer l'eau, et de là on a une évacuation à la mer de toute cette eau. Donc ça, plus les évacuations classiques par les côtés, nous permet de répondre à la norme. Donc là, il y a eu beaucoup de calculs, puisque tu t'imagines bien que c'est pas évident de calculer quand il y a une quantité d'eau dans une surface. Qu'elle doit s'évacuer à une certaine vitesse.
Tout à fait, j'imagine.
On est autour de ça et on est bien arrivé. Donc le bateau est effectivement homologué en conséquence.
Très bien. Dis-moi Yann, vous avez décalé d'un an la sortie de l'Antares 11 sans fly qui avait été présentée au Salon Nautique de Paris l'année dernière. Et puis cette version fly que vous présentez en fait pour 2021. Je sais qu'il y a le Covid qui est passé par là entre-temps, mais pourquoi vous ne les avez pas sortis en même temps? Parce qu'en fait, ça s'adresse à deux programmes, on va dire, peut-être un peu différents. Il y en a un qui est peut-être plus méditerranéen et l'autre plus atlantique, non?
Oui, c'est vrai. Et je t'avouerai que c'était notre rêve de les sortir en même temps. Mais on a dû faire un lancement dissocié uniquement pour des raisons de temps de développement et d'industrialisation. En fait, si on avait gardé l'idée de les sortir en même temps, on aurait dû du coup décaler le lancement des deux bateaux.
D'accord.
Pour terminer les études de la version fly et sortir en même temps que la version coupée. Voilà, donc finalement, après plein de discussions, on a choisi de lancer la version coupée et la première année et la version fly à suivre.
Et là, justement, quelles sont vos prévisions à peu près de répartition des ventes entre la version fly et la version coupée?
Écoute, nous, on est parti sur 60%, 60% en coupé, 40% en fly. Sachant que la version fly est sortie après, on commence à avoir, je dirais depuis peu, hein, depuis seulement quelques semaines, l'impact de marchés importants à l'export, et notamment du plus important, qui sont les États-Unis. Et là, sur les États-Unis, c'est forcément la version fly qui
l'emporte, oui.
Qui l'emporte largement. Donc ça ne m'étonnerait pas que peut-être d'ici un an ou deux, nos statistiques soient même inversées par rapport à ce qu'on fait.
Oui, ouais, tout à fait. Et alors justement, juste pour savoir, parce que les gens vont se ruer sur Motorboat et puis ils vont se ruer après pour vouloir acheter une Beneteau Antares 11 Fly, dis-moi, quel est le délai d'attente aujourd'hui pour une Antares 11 avec Fly?
Alors je vais te dire que Motorboat a eu du nez en nous desservant ce prix, et je vous en remercie, ce prix, et je vous en remercie encore. Le succès du bateau, il est incroyable. Il dépasse en fait nos espérances. Et malgré nos capacités de production qui sont conséquentes dans ces tailles de bateaux, aujourd'hui, on est sur mars 2022.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
ah d'accord.
C'est très loin. On a été largement dépassé par le succès du bateau. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est moins bonne pour certains clients. Alors, ceci étant dit, j'ajoute une précision à ça. Dans nos commandes, on a bien évidemment notre réseau de distribution qui nous commande aussi des bateaux de stock.
D'accord, oui.
Il peut y avoir en Europe certainement encore des bateaux en commande par nos distributeurs qui ne sont pas encore vendus à des clients finaux et qui sont donc disponibles.
Ah ouais. Bon, bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Bateaux qui sont fabriqués, on est d'accord, puisque c'est du hors-bord à Ostrowda.
Exactement. Donc on est sur notre site en Pologne qui est probablement une des plus grandes usines de fabrication de bateaux hors bord au monde. Et malgré les performances que nous avons sur ce site de production, eh ben tu vois, ça ne suffit pas à répondre à la demande. Donc on est en train de regarder des solutions pour encore accroître notre production sur ce modèle-là.
Bon, bah, très bien. Bon, bah, Yann, écoute, un grand merci, en tout cas, de nous avoir accordé ces instants. Encore bravo pour ce prix. Et puis, ben écoute, à très bientôt. Et puis, ben passe de bonnes fêtes de Noël.
Oui, eh bien, merci à vous tous. Et on est très fiers. Et au nom de toutes les équipes Beneteau, je vais leur transmettre vite l'information. Ils vont comme ça passer des fêtes de fin d'année encore meilleures. Une super nouvelle pour nous tous, une belle récompense. Un grand merci et bonne fête à toute l'équipe.
Merci beaucoup, Yann. À très bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Mars 2022, donc comme quoi, si on veut de l'innovation, il faut être un petit peu patient.
Oui.
Intéressant. On va continuer, Edouard, Stéphanie, avec le prix spécial du jury. Moi, j'avoue que c'est celui qui m'interpelle souvent le plus. Comment est-ce qu'on peut le qualifier, ce prix, du coup,
c'est prix coup de cœur. C'est le prix coup de cœur. Hein,
c'est
vraiment le bateau qui ne... Voilà, les gens ne regardent pas le prix, vraiment le ressenti. Quoi. Voilà.
On ne pense même pas au programme pourrait être celui du bateau.
Voilà.
On aime, on n'aime pas.
Exactement, on aime, mais bon, celui-là, honnêtement, il a...
C'était difficile de ne pas l'aimer.
Oui, et puis bon, je pense qu'il a remporté une espèce d'unanimité, le ciré Sundancer 320 hors bord, qui donc remporte ce prix cette année, a vraiment fait rêver la majorité de nos lecteurs, en fait, qui sont complètement tombés sous le charme de la qualité, de la fonctionnalité des unités américaines, puisque c'est un bateau, bien qu'il soit fabriqué en Europe, c'est quand même une marque américaine, Ciré. Et en fait, les éloges étaient assez marrantes. C'était comportement exceptionnel, navigation en pullman, le luxe à tous les étages. Donc, ils étaient assez dithyrambiques.
J'aime bien le sous-titre de l'article de Motorboat, c'est le Ciré Sundancer 320 hors bord, la classe américaine.
C'est exactement ça.
Finalement, c'est vrai qu'il a une ligne avec...
Il a une ligne, il y a tout. Enfin, voilà, une qualité de fabrication, un super comportement. Enfin, voilà, ils ont été complètement sous le charme de cette unité.
Oui, et puis c'est un bateau qui, quelque part aussi, a été précurseur par son plan de pont, avec son système de salon avant ouvert, qui a été d'ailleurs, qui a inspiré pas mal de chantiers européens, il faut l'avouer.
Hein. Eh ben, écoute, exactement, et tu vois, c'est exactement la question que nous avons posée à Basile Camus, qui est le responsable vente Ciré Europe. Ça fait partie des questions que nous lui avons posées.
Eh bien, on l'écoute tout de suite, Basile.
Très bien.
Bonjour Basile, et puis félicitations. Donc vous remportez le prix de spécial du jury, qui est un peu le prix coup de cœur, avec le 320 Sundancer en version hors-bord. Si je ne m'abuse, l'année dernière, vous aviez remporté le prix du bateau de l'année avec le 230 Sunsport. Donc c'est deux prix à la suite, bravo. Deux hors-bord. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est aujourd'hui en France la part entre les modèles hors-bord et les modèles in-bord au sein de la gamme Ciré?
Bonjour Stéphanie, merci de ce prix, ça nous fait très plaisir, c'est très gratifiant. Aujourd'hui, Ciré développe de plus en plus les hors-bord, depuis notamment les 5 dernières années. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on développe un nouveau modèle, c'est une nouvelle coque qui vient s'ajouter, donc vous avez vraiment une coque dédiée pour le inboard et une coque dédiée pour le hors-bord. Ce qui fait la spécificité des Ciré, et donc aujourd'hui on va fabriquer à peu près 60% de hors-bord et 40% de inboard.
D'accord. Et cette proportion ne fait que croître par rapport à l'engouement du hors-bord ?
Exactement, surtout sur des marchés comme la France où on a une forte demande pour les motorisations hors-bord. On estime l'année prochaine passer à 70% par exemple de production hors-bord pour le marché français. Oui.
Très bien. Alors revenons au cas particulier du 320 Sundancer. Donc, c'est un bateau qui était sorti aux États-Unis il y a à peu près 4 ans, en France il y a à peu près 2 ans dans sa version inboard. Là, vous le présentez en version hors-bord. À l'avenir, pour d'autres modèles disponibles dans ces deux motorisations, est-ce que vous avez l'intention de réduire cette durée, voire même de sortir le modèle hors-bord avant, compte tenu du fait qu'il y a quand même un véritable engouement pour ce type de propulsion ?
Alors oui, tout à fait, puisque c'est vraiment un marché qui est très exponentiel pour nous. Le hors-bord est très porteur sur l'activité, sur des marchés clés comme la France, la Norvège. Après, on reste sur des marchés comme l'Allemagne, des marchés très traditionnels sur le inboard. Mais vraiment, le hors-bord est développé en priorité, je dirais, de plus en plus chez les sociétés Ciré. On le voit aux États-Unis avec un nouveau modèle qui va arriver, que vous verrez en février, hein, qui a un 37 pieds de chez Ciré, qui sera décliné en version hors-bord. Et aussi en Europe, on aura un nouveau 25 pieds qui va arriver au mois de juin et qui sera décliné en version hors-bord. On va aussi avoir tendance à réduire l'écart qu'on a pu avoir par le passé entre la version inboard et hors-bord, à savoir qu'il faudra attendre que quelques mois aujourd'hui pour avoir le lancement de la version hors-bord, puis ensuite inboard.
Des bateaux comme le 320 Sundancer, c'est des bateaux qui sont fabriqués en Europe ?
On les fabrique en Europe, oui, depuis une quinzaine d'années, on a des chantiers qui nous permettent de fabriquer une quinzaine de modèles en Europe. Ce sont les mêmes modèles que les modèles américains, c'est juste que ça nous permet d'être plus compétitifs et surtout de mieux servir nos clients au niveau européen et d'avoir aussi une expérience différente de ce qu'on peut faire aux États-Unis. Oui.
Du coup, il y a une chose qui est sûre, c'est que de la part de nos lecteurs, ils ont tous beaucoup aimé le côté américain. Donc, ça doit être fabriqué en Europe. Vous arrivez à conserver cette image, cette qualité et puis ce style américain sans aucun problème. Une petite dernière question pour un clin d'œil. Basile, le Ciré 320 Sundancer avait vraiment avait lancé un nouveau concept de bateau, hein, avec un plan de pont audacieux et astucieux, avec cet avant très lounge, avec ce passe-avant latéral. Vous avez été les initiateurs, mais depuis, vous avez été quand même pas mal imité. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce que, bon, ça vous dérange?
Alors moi, je dirais que ça dépend qui nous copie, mais effectivement, quand c'est des chantiers de renom et qui ont un historique et un passé comme ceux qui ont pu imiter ce concept, c'est très gratifiant et on apprécie énormément la reconnaissance que ça nous apporte dans le milieu. C'était une très bonne idée, une idée qui est devenue de nos bureaux d'études européens. Et un concept qui marche d'autant plus et qui va être chez nous en tout cas décliné en 32 pieds et puis voir sur des plus grosses tailles par la suite. Oui.
Et qui marche très bien aux États-Unis aussi.
Qui marche partout dans le monde, oui, bien sûr, que ce soit aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans les pays comme l'Asie ou l'Amérique du Sud.
Super. Bon, bah, Basile, merci beaucoup. Merci d'avoir été disponible, merci, et d'avoir pu répondre à nos questions. Et puis à très bientôt. On attend les prochains cirés et puis l'année prochaine, alors peut-être encore merci. Un troisième prix, jamais 203.
Merci beaucoup en tout cas de votre confiance. Merci. Au revoir.
Alors, un très beau bateau, hein, ce Ciré Sundancer, prix spécial du jury Motorboat 2020. On va maintenant rentrer dans le dur, dans le vif, avec les deux bateaux de l'année, catégorie moins de 7 mètres, catégorie plus de 7 mètres, comme on l'expliquait au tout début. Moins de 7 mètres, c'est le gros du marché, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'immatriculations de bateaux neufs. Donc c'est un marché qui est très porteur, sur lequel les chantiers se positionnent. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Qu'est-ce qui caractérise quelque part les nouveautés de cette année ?
Ce qui caractérise, nous, ce qui est sûr, c'est que parmi nos finalistes ou nos nominés, il y avait quand même 8 bateaux. Alors on va quand même les nommer parce que c'est vrai qu'on parle que des gagnants, mais des vainqueurs, mais les autres n'ont pas démérité. Et en fait, ce qui est incroyable dans ces élections, c'est qu'on se rend compte qu'il y a derrière chaque bateau, il y a quand même un plaisancier parce que ils arrivent tous à trouver des qualités à tous les bateaux. Bon, voilà, nous, c'est mathématique, c'est un calcul, mais les autres ne déméritent pas. Donc, parmi les bateaux de moins de 7 mètres, il y avait donc le Bayliner Trophy 20CX, qui est un très joli open, le Quicksilver Active 675 Weekend, un timonier, un petit bateau de croisière pour le week-end, Bayliner Trophy 22CC, le grand frère du Trophy 20, en version un petit peu plus pêche, mais console centrale, très jolie ligne, le Brig Eagle 6.7, un semi-rigide aussi pareil, assez fonctionnel. Le Capelli Tempest 700. Le Bédemarine 752 Cruiser série 2, le seul des cruisers de cette catégorie-là, de cette taille-là. Le Rocca San Remo, un open au look assez incroyable qui symbolisait le retour de la marque Rocca. Et puis un autre timonier, mais plus axé pêche, le Quicksilver 805 Pilot House. Voilà. Donc parmi ces huit bateaux, de moins de 7 mètres, donc le vainqueur cette année, c'est le Bayliner Trophy 22CC. Et alors on est très très content parce que c'est un très beau retour pour le nom Trophy. Rappelons que le nom Trophy, c'est un nom qui a été assez illustre dans les années 80 et puis qui n'a pas très très bien supporté la crise de 2008. Et ils étaient réputés pour leur modèle walk-around et leur modèle un petit pépêche. Ça appartenait donc à Bayliner. Et là, Bayliner relance, se sert à nouveau de ce nom pour renommer sa gamme de consoles centrales.
Tout à fait, on en avait parlé il y a
exactement,
quelques temps
au dernier, exactement. Et là, ils profitent de ça avec deux modèles, le 20 et le 22. Et honnêtement, c'est tout à fait justifié. Edouard, tu veux dire quelque chose ?
Je pense que la marque Trophy, ça reste pour bon nombre d'entre nous une marque très forte et je pense que tout le monde est heureux de la voir revenir. C'est une marque qui fleure bon la pêche, les loisirs et la finition à l'américaine. Donc C'est quand même c'est sympa de voir Trophy revenir. Ouais.
Décidément, les bateaux américains ont la cote en Europe, alors que on voit parfois des innovations européennes qui sont dupliquées, qu'on va retrouver aux États-Unis.
Oui, tout à fait, effectivement. Non, mais là, ce qui, dans le cas du Trophy, a véritablement séduit le jury, c'est son côté bateau facile à prendre en main, accessible financièrement, avec un bon passage en mer. Enfin, voilà, le hyper agréable à piloter parce que sûr et en même temps avec de bonnes sensations, ça se pilote un peu comme un petit kart. Donc c'était un bon mélange de plein de choses qui ont fait que ce bateau il est sorti du lot, quoi. Donc voilà,
il a une petite gueule américaine qui je pense est assez plaisante pour ses propriétaires. Si on appelait Axel Legris pour en savoir un petit peu plus, c'est le responsable des ventes France, hein, pour la gamme Trophy.
Tout à fait, on l'appelle.
Oui, allô?
Oui, bonjour Axel, ici Stéphanie de Motorboat.
Bonjour Stéphanie.
Axel, je t'appelle parce que je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Je voulais t'annoncer que vous étiez les gagnants du titre du bateau de l'année dans la catégorie des moins de 7 mètres de nos élections des Motorboat 2020.
Waouh, super nouvelle.
Voilà, donc j'espère que je te dérange pas, mais je voulais t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est vraiment un retour gagnant pour le nom Trophy et on est bien content. Est-ce que tu peux nous accorder quelques instants pour qu'on te pose quelques questions?
Oui, bien sûr.
Alors, écoute, le 22 CX et le 20 CC, ils avaient été dévoilés en première pour la première fois au Salon de Miami en février dernier. Est-ce que tu peux nous dire quel accueil ils avaient eu déjà au moment de leur lancement?
Alors c'est vrai que c'était une gamme qui avait été mise en sommeil il y a quelque temps, et le fait d'avoir relancé cette gamme de Trophy l'année dernière à Miami a créé le buzz et a attiré l'attention. Donc ils étaient très très attendus pour les différents pays européens avec lesquels nous travaillons. Donc là, on les a présentés aux essais presse, puisqu'ils devaient être présentés au Salon de Cannes et La Rochelle qui n'ont pas eu lieu. Donc c'est effectivement, les élections de bateau de l'année ont été une bonne solution pour les présenter. Donc gros accueil, grosse demande, et on a pas mal de commandes déjà enregistrées à l'heure actuelle. Donc grosse satisfaction sur cette nouvelle gamme de Trophy.
Très bien, alors justement, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des bateaux disponibles dans le réseau, et quel est le délai aujourd'hui d'attente pour quelqu'un qui veut en acheter un?
Oui, donc on a reçu les premiers bateaux qui sont en train d'arriver en concession. Le gros de livraison va se faire au printemps, donc il reste encore quelques bateaux disponibles. Après ça, on peut tout à fait prévoir de nouvelles commandes pour le millésime 2022 qui démarre assez rapidement finalement, parce que ça va démarrer début juillet.
D'accord, très bien. Dis-moi, si j'ai bien compris, le nom Trophy, vous allez l'associer à toute la gamme de consoles centrales, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques indiscrétions pour la suite de la gamme Trophy? Est-ce que vous avez l'intention, parce que le 20 et le 22, on sait que c'est des carènes qui avaient été un peu utilisées, je crois, sur les VR. Mais oui. Bon, c'est quand même des bateaux nouveaux, complètement nouveaux. Est-ce que vous avez des projets sur du plus gros, du voilà, quelques indiscrétions?
Alors, il y a des projets. On devrait vraisemblablement monter un petit peu en taille. Donc il y a des choses qui sont sur les tablettes. À l'instant, c'est à l'étude, donc on ne peut pas vous annoncer encore complètement de vraies nouveautés, mais par contre, soyez sûr que vous serez les premiers à informer, comme d'habitude.
Mais à quel moment tu penses que c'est quoi? Pour les salons d'automne 2021?
Si on est dans les timings, ça pourrait le faire à ce moment-là. Sinon, ce sera peut-être un petit peu plus tard dans le millésime. Ouais. Donc peut-être Paris ou... On essaiera de tout faire pour que ce soit avant, mais il y a des choses à venir, soyez-en sûrs, pour l'année prochaine.
Bon, super. Bon, en tout cas, un grand bravo, Axel, et puis un bravo vraiment, c'était vraiment mérité, parce que ça a été un bateau qui s'est bien distingué des autres pour nos lecteurs, donc on est ravis pour vous.
Un grand merci à vous, à toute l'équipe, et puis à tous les lecteurs. C'est toujours un plaisir de les avoir à bord, parce que ça nous donne une vraie vision de pratiquant. Et c'est très instructif pour nous et pour avancer pour nos futurs modèles. Donc un grand merci à toute l'équipe Motorboat et à tous les lecteurs, comme d'habitude.
Merci beaucoup Axel, à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Je vais pouvoir passer commande alors de mon 22cc. On rappelle le prix du bateau, 70 411 euros, c'est très précis, avec, avec 200 chevaux. Voilà, motorisation maximale 300 chevaux, mais je pense qu'avec 200 déjà, ça doit être confortable.
Oui, oui, on est déjà bien. Oui.
On est déjà bien. On est maintenant, on est déjà bien parce qu'on a remis 4 prix, il nous en reste un à remettre, c'est le bateau de l'année de plus de 7 mètres. Donc là, ça ne rigole plus, on n'est pas encore dans les grosses unités, en tout cas on est dans cette partie du marché qui dépasse la sacro-sainte limite des 7 mètres. Quelques nouveautés aussi cette année, c'est un marché qui est tout aussi dynamique, vous diriez ?
Oui, oui, bah, ça s'est pas mal bousculé au portillon et... Donc, pas mal de nouveautés dans cette catégorie des plus de 7 mètres et une bataille quand même bien serrée. Hein. On avait, bon alors je vous les refais.
Oui, qui étaient les prétendants au titre là ?
On avait donc le Rand Play 24, Beneteau Flyer 9 SD, le BMA X266, la nouvelle marque BMA, Salpa Soleil 33, donc en semi-rigide, le Siret Sundancer 320, et Beneteau Antares 11 Fly, ainsi que Jano Mary Fisher 1095 Fly. Voilà.
D'accord, donc un seul semi-rigide parmi tous ses concurrents, et surprise, le vainqueur
Et bien surprise justement, c'est le semi-rigide qui, à l'issue d'une bataille serrée, emporte le prix du bateau de l'année dans les plus de 7 mètres. Il s'agit du Salpa, donc Soleil 33. Salpa et Soleil 33.
L'alliance de la sportivité et de l'habitabilité, je lis sous voilà. Mes yeux dans Motorboat.
Pas peur des mots. Et donc, semi-rigide assez impressionnant.
Qu'est-ce qui est impressionnant alors sur ce bateau ?
Mais en fait, on dirait presque pas un semi-rigide quelque part. Il y a une finition, une unité de couleur... Une esthétique globale qui est quand même surprenante. Et donc, comme on sait, la marque Salpa qui produit dans une usine ultra moderne du côté de Naples. Et le jury était littéralement emballé par ce semi-rigide. Ouais.
Donc Salpa Soleil 33, ça fait partie d'une gamme, hein, c'est la gamme Soleil.
Exactement, ouais, ouais, y a une gamme assez vaste, le plus petit étant, je ne veux pas dire le 20. Ouais, Soleil, ouais, ouais.
Hein, ils sont forts les Italiens, dès qu'il s'agit d'aller faire dans le...
Ah, là c'est leur terrain de prédilection,
le semi-rigide, tout à fait. Et je propose qu'on l'appelle, alors il n'est pas italien, mais il va quand même nous répondre à nos questions, c'est l'importateur de Salpa pour la France, c'est Emmanuel de Garam.
Voilà.
On l'appelle tout de suite.
Salut Emmanuel, c'est Edouard, Motorboat à l'appareil.
Salut Edouard, comment vas-tu ?
Eh ben ça va, et ça va d'autant mieux que je t'annonce une bonne nouvelle. Salpa Soleil 33 remporte le prix du Motorboat de l'année.
Ah, c'est
voilà,
génial.
Dans les plus
génial,
de 7 mètres.
Génial. Écoute, on est ravis, c'est une très bonne nouvelle. Je ne te cache pas qu'on avait quand même... On s'y attendait pas, on peut pas dire ça comme ça, mais on avait confiance parce que vraiment, comme tout le monde a pu le voir, le Salpa 33 est vraiment un bateau exceptionnel.
Ben ouais, on peut dire que la marque a quand même monté en puissance là sur ces dernières années. Hein.
Et ouais, la marque, on est content parce qu'on a on a une très très jolie effectivement pénétration, la reconnaissance de la marque. Il faut dire que le chantier, en dehors du fait, c'est un des chantiers les plus modernes d'Europe, a une capacité de production très importante. Et on est arrivé effectivement à sortir une gamme complète, hein, jusqu'à 42 pieds en moins de 4 ans, ce qui est un record. Et tous nos bateaux sont bien nés. Nos bateaux sont bien nés. On a vraiment de très très bons bateaux, dont évidemment le 33.
Exactement, et justement, on t'a concocté quelques petites questions, et du coup, comme sur la gamme Soleil, donc on a 7 modèles de 20 à 42 pieds, si je ne dis pas
de bêtises. Je te coupe juste une toute petite seconde, je te donne un scoop, c'est qu'en fait, à partir de février, on aura aussi un 18 pieds.
Eh bien, 8e modèle, du coup.
Voilà.
Et du coup, donc le 33, c'est un modèle qui est plutôt dans le haut de gamme, quoi, dans le haut du panier.
Oui, si tu veux, chez nous, le 33, effectivement, qui est sorti en fin de l'année dernière, est un bateau qui fait partie de notre haut de gamme qu'on a complété par un 42. Mais voilà, c'est le 33, c'est mon bébé. J'adore ce bateau. C'est un bateau exceptionnel.
Et du coup, le profil de l'acheteur pour un Soleil 33 et même sur vos gros semi-rigides en général, c'est quoi l'acheteur type, c'est qui en fait?
Alors l'acheteur type, bon, il n'y a pas vraiment un profil type. Ça part effectivement du chef d'entreprise, du jeune cadre dynamique, si on peut te dire. Il y a un profil qui revient assez fréquemment. C'est en fait le plaisancier qui fait du bateau depuis toujours avec sa famille, qui a éventuellement encore un 45 ou un 50 pieds dans le port. Sauf qu'il est, bon, il a 55, 60 ans, il va de moins en moins au bateau, il y a la concurrence du golf, son épouse n'est plus forcément emballée par les grosses sorties avec les amis, beaucoup de préparation de bateau, beaucoup de travail à bord. Et en fait, l'aspect du semi-rigide permet à ce plaisancier de conserver un bateau, parce qu'il est hors de question qu'il n'ait pas de bateau, de conserver la possibilité effectivement de dormir à bord, parce que évidemment... Ouais. Il n'est pas habitué à dire je pars le matin et je rentre le soir. Sa femme revient souvent parce que les amis de sa femme aiment ça, hein, les copines. Donc tout le monde revient. Les enfants peuvent prendre le bateau parce qu'ils sont grands maintenant. Et accessoirement, le plaisancier a jeuni de 15 ans. Voilà.
Bon, écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations pour cette belle distinction. Et puis,
merci beaucoup.
Et à très bientôt. Et on te souhaite de bonnes fêtes.
Eh bien, écoute, moi aussi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et à l'année prochaine, alors.
À bientôt, Emmanuel. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Bravo en tout cas ce Salpa Soleil 33 qui remporte le prix du bateau du plus de 7 mètres. Édouard, Stéphanie, Édouard, moi j'avais une question à vous poser qui me turlupine depuis tout à l'heure. On a parlé des votes des lecteurs qui forment le jury de ces prix. Est-ce que vous, la rédaction, vous aviez un avis qui était différent, significativement différent de ces lecteurs sur un ou plusieurs des bateaux qui ont été récompensés?
Alors écoute, on ne s'est pas véritablement concerté entre nous.
Vous envoyez toute l'année. Donc
Oui, alors en fait, si tu veux, ce qui est sûr, c'est que sur les plus de 7 mètres, il y avait quand même, ce que je disais au début, c'était quand même très très serré. Mm-hmm. Mais quand je dis très serré, c'était à quelques points près. Entre les Beneteau, le Jeannot, le Salpa, le Ciré, c'était dans un mouchoir de poche. Mm-hmm. Nous, après, effectivement, je sais pas, Edouard, est-ce que toi, tu es surpris par le résultat ou pas?
Écoute, non, pas spécialement. Moi, je suis assez en accord avec le choix des lecteurs, de nos lecteurs jury. C'est vrai que le prix coup de cœur pour le Ciré 320 Sundancer Orban, je comprends tout à fait. Et le Salpa en bateau de plus de 7 mètres, ça me paraît cohérent aussi. C'est des bateaux qui vraiment sortent du lot. Donc,
Ce qui est incroyable, c'est que malgré le prix qui n'est quand même pas donné, puisqu'il est quand même à 280 000 euros le Salpa, ce qui est... mais pour les lecteurs, ce n'était pas un problème parce qu'ils ont été tellement épatés par le niveau de finition, par le programme, par le luxe, par tout ça, que finalement, ils trouvaient que c'était plutôt justifié. Donc, ce qui prouve bien quand même, et ça c'est assez intéressant, c'est ce qui en est sorti, c'est que malgré tout, dans des tailles de bateaux comme ça, les gens sont prêts à mettre de l'argent à partir du moment où il y a de la qualité. Quoi.
Ouais. La qualité, de l'élégance, de l'innovation, tout cela a un prix. Et c'est comme les prix des motorboats de l'année. Il y en aura donc eu 5 cette année. On invite nos éditeurs, lecteurs et amis à ouvrir
parce que
vous avez tous les détails, les
exactement.
Fiches techniques, les
avis des lecteurs et surtout les bateaux, parce que c'est vraiment, moi je tiens vraiment à dire qu'il y a 5 bateaux qui sont récompensés, mais il y a eu 15 bateaux qui ont participé.
Voilà, ouais.
et tous les bateaux méritent de toute façon de naviguer et ont tous un plaisancier à qui ils plaisent. Donc je pense que c'est vraiment intéressant les remarques des lecteurs et ça vaut vraiment le coup. Donc c'est notre gros dossier du numéro qui est en vente depuis ce matin.
Des lecteurs et de la lectrice. Hein, on en a parlé tout à l'heure, il y en a une. Et puis si les photos ne vous suffisent pas, il y a également la vidéo qui est liée à ce podcast Radio Pontan qui vous montrera en image et en musique sur voile et moteur, à quoi ressemblent tous ces bateaux.
Exactement.
Stéphanie Edouard, un grand merci pour ce travail, puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour un prochain Radio Ponton et surtout les prochaines élections des motorboats de l'année 2021.
Tout à fait, merci beaucoup Pierre-Yves, et puis bonne fête à toi aussi.
À très bientôt.
À bientôt.